Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités, des poèmes orientaux, un vampire, un pacha, un corsaire, des femmes puissantes, un cheval sauvage et des héros. Plus qu'il n'en faut, avec Jean Pavant et Marc Poré, à propos du poète anglais Lord Byron.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, ravie de vous retrouver pour cette saison, une heure toujours consacrée à la poésie comme elle veut, écrite, lue, dite, dansée, chantée, écoutée, éditée. Et pour cette rentrée, une figure, disons majuscule, excessive en tout cas, mélancolique, contradictoire sans doute, celle de Byron, le très beau, très boiteux, très furieux, poète anglais, né en 1788 et disparu en Grèce en 1824 à l'âge de 36 ans. Byron qui fait l'objet d'une fraîche traduction chez Gallimard, par vos soins, Jean Pavant, augmentée d'ailleurs d'une chronologie signée Marc Poré, hein, vous qui, comme ça tombe bien, avez précédemment traduit le fameux Don Juan du même Byron. Au programme donc de cette nouvelle traduction, une oraison à Venise et trois longs poèmes articulés en chants, le Giaour, paru en 1813, Mazeppa, paru en 1819, et le Corsaire, qui donne son nom au recueil. Il Corsaro de Verdi, La Complainte de Médorac, un scène 2 interprété ici par Jesse Norman sous la direction de Lamberto Gardelli, un opéra évidemment inspiré du Corsaire de Byron, un peu plus de 30 ans hein, après l'apparition de ce long poème narratif en 1814. Médora, la, disons la fidèle, l'amoureuse, hein, celle qui mourra d'amour pour Conrad, son corsaire, son amant. Médora qui donnera d'ailleurs son nom, je crois, à l'une des filles hein, de Byron, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'un tel personnage prend en charge Jean Pavant, sachant que, disons que la figure de la femme chez Byron, même si elle vient bien souvent au secours du héros, n'est pas forcément enviable hein.
La véritable héroïne du corsaire, c'est Gulnare, c'est l'autre.
C'est l'autre.
C'est l'héroïne cornélienne qui assassine Saïd, le pacha, pour partir avec le corsaire. Et Médora est la femme passive, celle qui attend le corsaire qui est parti. Et qui, en effet, dans le poème de Byron, il y a une très belle complainte qui est admirablement mise en musique par Verdi et merveilleusement chantée par Jesse Norman. Et il faut dire que le corsaire est un peu construit en trois chants qui se prêtent absolument à une adaptation d'opéra en trois actes. Et le livret de Piave est très fidèle à la structure du corsaire.
un poème opératique, vous diriez,
Marc Poiret. Un poème opératique, oui, comme la vie, la personnalité et l'image de Byron. Et un personnage aussi, celui du corsaire, qui a en quelque sorte gravé dans le marbre l'image du héros byronien. Le corsaire, c'est une figure qui ne va cesser de revenir tout au long de la carrière de Byron. C'est quelque chose qui est comme une marque de fabrique, le corsaire. On sera à jamais corsaire, clandestin, subversif.
Et le succès était considérable,
était
gigantesque. N'est-ce pas, il y a eu 10 000 exemplaires vendus le premier jour, à un moment où Byron voulait cesser de publier. Mais à partir du moment où le corsaire a eu cet énorme succès, Dieu merci, comme ça il a écrit Don Juan et la suite.
C'est vrai qu'il l'écrit déjà dans la préface, dans sa première préface du corsaire.
Dans sa première préface, il dit j'en ai assez, j'arrête. J'en ai assez des attaques, j'arrête. Puis évidemment, il a retiré cette préface quand ça a eu un très grand succès. Et le corsaire est peut-être a été une œuvre extrêmement connue. Il y a eu même un ballet d'Adolphe Adam qui était en 56. Le corsaire était très attaché, en effet, à la figure de Byron.
Oui, mais vous avez raison de mettre ça en avant parce que on entend une voix de femme. On entend, en l'occurrence, la complainte. Mais le corsaire, c'est un personnage masculin, un peu macho, sombre, ténébreux, masculin. Mais c'est bien d'ouvrir l'émission sur la voix de la femme, parce que c'est un peu l'autre de Byron, la femme. Et on ne va cesser de dire ça, je crois. Hein. Il y avait une part de féminin en Byron, et donc c'est assez...
Surtout que le héros byronien, on va y revenir, hein, mais il va bouger aussi avec le temps un petit peu, si on a le temps d'en venir à Don Juan, justement, qui sera une figure plus passive, hein, d'une certaine façon.
Mais la femme est l'aimant. La femme est l'aimant. C'est une force d'aimantation, hein, dont Byron n'est que l'amant, et il suivra en permanence l'éternel féminin, pour le dire comme Goethe, et donc Medora est une de ces incarnations-là.
Mais en même temps, la femme est autre.
Jean Pavin.
La femme est autre. C'est très différent de Shelley. Shelley cherchait la jumelle. Il l'a trouvée avec Marie Shelley. Et dans Shelley, la féminité n'est pas un continent mystérieux comme ça l'est chez Byron.
Alors peut-être juste un mot sur ce personnage de Conrad, sur ce corsaire qui effectivement va devenir l'archétype de ce qu'on a appelé le héros byronien. Qu'est-ce qu'il faut à un héros pour être byronien?
Qu'en pensez-vous, Marc
Poiret?
Il faut vivre avec le sentiment d'abord du malheur, ensuite d'une sorte de malédiction qui s'est abattue sur vous. Il faut porter en soi la conscience d'une culpabilité diffuse. Il y aurait un crime, quelque part, commis. Ce crime, on en souffle le mot. Ce crime est-il l'inceste? Est-il plus grave encore? Enfin, je veux dire, il flotte autour du héros byronien, d'abord des ténèbres, et puis le sentiment d'être marqué par le destin. Il y a une formule que l'on trouve un peu partout, mais elle est présente dès le Manfred, « fatal and fated », c'est-à-dire fatal, et marqué par le fatum, marqué par le destin.
Et si vous voulez, je vais donner la parole à Baudelaire et à Chateaubriand. Baudelaire qui écrit « Byron, loquacité, redondance. En revanche, ces sublimes défauts qui font le grand poète, la mélancolie, toujours inséparable du sentiment du beau, et une personnalité ardente, diabolique, un esprit salamandrin. » Alors le terme de salamandrin est extraordinaire, parce que ça veut dire la salamandre est quelqu'un, une bête fabuleuse qui vit dans le feu. Pas qui produit du feu, mais qui vit dans le feu, qui ne peut vivre que ce qui a été la vie de Byron, que dans les flammes du scandale, les flammes de l'action. Ce qu'avait écrit avant Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe le recoupe d'une certaine manière, mais dans un autre esprit. Byron, d'après l'opinion fantasmagorique, est l'ancien serpent séducteur et corrupteur, parce qu'il voit la corruption de l'espèce humaine. C'est un génie fatal et souffrant, ce que vous disiez, un génie fatal et souffrant, placé entre les mystères de la matière et de l'intelligence, qui ne trouve point de mots à l'énigme de l'univers, qui regarde la vie comme une affreuse ironie sans cause, comme un sourire pervers du mal. C'est le fils du désespoir qui méprise et renie, qui, portant en soi-même une incurable plaie, se venge en menant à la douleur par la volupté tout ce qui l'approche. C'est un homme qui n'a point passé par l'âge de l'innocence, qui n'a jamais eu l'avantage d'être rejeté et maudit de Dieu, un homme qui, sorti réprouvé du sein de la nature, est le damné du néant. C'est assez extraordinaire parce que d'une certaine manière, ça pourrait s'appliquer à Baudelaire. Ça pourrait s'appliquer aux fleurs du mal. C'est pour ça que Baudelaire le voit plutôt dans un esprit négatif, positif, au contraire, de considérer tout ce malheur comme la source du génie et même le matériau de génie, tandis que Chateaubriand a un point de vue moral, c'est-à-dire, oui, satanique, malheureux. Là où Baudelaire dit il est mélancolique, Chateaubriand dit il est malheureux. D'ailleurs, il a une phrase un peu stupide avant. Qui sait, il n'avait peut-être pas trouvé la femme qu'il cherchait, une femme assez belle, un cœur aussi vaste que le sien. Ce qui est en partie vrai, d'ailleurs, dans la recherche de Byron, mais tout de suite, on l'a vu comme marqué par le mal et répandant le mal, je pense.
Est-ce que ça veut dire, l'un et l'autre, Marc Poiret et Jean Pavant, que vous en êtes venus à Byron, en tout cas à la poésie de Byron, davantage par le personnage que par sa poésie à proprement parler?
J'ai été conduit à Byron par Shelley et par ce qu'en a dit Baudelaire. Est-ce que vous auriez une idée, Marc,
de poète Salomon? Non, pour aller au fond de la question, si j'en suis venu à Byron, c'est que Byron présente l'avantage, si on peut dire, d'être une chose et son contraire, c'est-à-dire d'incarner le héros romantique à tous les égards et d'incarner aussi le contraire du héros romantique, c'est-à-dire qu'il est foncièrement resté un poète du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un poète foncièrement marqué par le néoclassicisme, foncièrement marqué par l'ironie du siècle des Lumières. Et donc, sur le tard, mais je ne veux pas anticiper sur la suite de cette émission, mais très vite, Byron a compris que le héros ténébreux, c'est une chose, c'est sûrement une pose, c'est une théâtralité, c'est une posture, mais quelque part, très vite, on perçoit l'imposture, ou en tout cas le sentiment d'imposture, pour reprendre la belle formule de Belinda Cannon. Et c'est vrai que Byron, ça rejoint la timidité, que peut-être le manque de confiance en soi, malgré l'arrogance, malgré la morgue de l'aristocrate. Byron est quelqu'un qui est un peu incertain. Et donc, du coup, très vite, il perçoit le creux, la vacuité, la vanité de cette pose qu'il a trimballée de par le monde. Et donc, avec son chef-d'œuvre comique, qui est le Don Juan, eh bien, il va montrer l'envers du décor, il va montrer le contraire du héros romantique. Et donc, du coup, pour résumer d'une formule, Byron, c'est le romantisme et c'est l'anti-romantisme. Et donc, du coup, c'est d'une pierre deux coups.
Et ça a été évident immédiatement à des esprits pénétrants, entre autres Chateaubriand, j'y reviens, qui confirme ce que vous venez de dire, Marc, et qui écrit « Quant à son esprit, il est sarcastique et varié, mais d'une nature qui agite et d'une influence funeste. L'écrivain avait bien lu Voltaire et il imite. »
Alors, est-ce que cette ironie advient tout de suite, puisqu'on parlait du héros byronien dont le corsaire serait l'archétype? Donc là, on est en 1814. Vous parliez du Don Juan qui est...
1819.
Quelques années plus tard, mais il s'est passé beaucoup de choses entre 1814 et 1819 dans la vie de Byron. Voilà. Qu'est-ce qu'il advient du héros byronien, proprement parler, entre 14 et...
Je dirais, pour ce que j'ai traduit, que le héros byronien, c'est beaucoup plus Mazeppa.
Thank you. ça file. Hein. Donc, un extrait du Mazeppa de Liszt, donc ce poème symphonique. Alors, je ne sais pas trop si c'est effectivement directement lié à Byron ou si c'est emprunté à Victor Hugo et au Mazeppa de Victor Hugo, mais ça, c'est quelques années après. Et Victor Hugo était lecteur de Byron, donc je ne sais pas
Victor
très
Hugo
bien comment...
Victor Hugo était lecteur de Byron dans les traductions françaises, parce que Hugo ne lisait pas l'anglais. Mais et puis, le poème d'Hugo est assez bref. Non, je pense que c'est quand même inspiré de Byron. Et je dois dire, quel que soit le talent que peut avoir un traducteur, je trouve que la traduction musicale de Liszt est absolument magistrale. C'est la meilleure traduction du poème dans mon esprit, la meilleure traduction du poème de Byron qui puisse exister. Et je voudrais vous dire une petite chose à propos du pied beau. Il y avait aussi le fait que Byron, adolescent, était obèse. Et il a fait un régime absolument draconien pour devenir sublime. Et je pense qu'il a toujours été dans son esprit un gros adolescent obèse. Et je vais faire une comparaison qui peut être bizarre, mais c'est un peu comme Maria Callas, qui était devenue une femme sublime, mais qui dans sa tête devait toujours être une grosse dame complexée. Et je pense que dans sa tête, il était toujours un gros adolescent complexé, même s'il est reconnu comme le poète le plus beau d'Europe.
Jean Pavant, donc même si il reviendrait à Liszt d'en avoir fait la meilleure traduction, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre traduction de Mazeppa ?
Voici venir du fond de la forêt une troupe de cavalerie. Je la vois s'approcher au galop en un seul escadron. J'essaie de crier, mes lèvres restent sans voix. Les destriers foncent dans une impétueuse percée. Mais où sont donc les rênes qui les guident? Un millier de chevaux et aucun cavalier. Un millier de chevaux à la crinière en bataille et la queue mouvante avec de larges naseaux, jamais tendus par la douleur, avec des bouches jamais ensanglantées par le mort ni les rênes, avec des sabots inentamés par le fer et des flancs ne portant aucune cicatrice d'éperon ou de fouet, libres et sauvages comme des vagues qui déferlent en grondant sur la rive pour saluer notre timide venue. Cette vision fait frémir mon coursier. Il y répond par un chétif hennissement. Ses jambes se mettent à trembler. Il chancelle, puis il s'écroule. Il reste ainsi étendu, les yeux vitreux, en poussant des hoquets, tous ses membres fumants et immobilisés. Sa mission première et dernière est terminée. Les chevaux s'avancent. Ils ont vu un des leurs tomber. Ils me voient étrangement ligoté sur son dos par des liens imprégnés de mon sang. Il s'arrête. Il tressaille. Ils reniflent l'air, puis ils se retirent un peu çà et là, reviennent pour se mettre en cercle autour de moi, et soudain se cabrent, font un bond en arrière, sous le commandement d'un puissant coursier noir dont la robe touffue ne porte aucun poil blanc, ni la moindre traînée claire, qui paraît être le patriarche autoritaire de la troupe. Ils ronflent, écument, hennissent, font enfin une embardée pour retourner dans la forêt, fuyant ainsi par instinct un regard humain. Ils m'abandonnèrent avec mon désespoir, attaché au cadavre de mon malheureux cheval, aux membres raides et inanimés, ne sentant plus le poids de son indésirable fardeau, dont je ne pouvais libérer ni lui ni moi-même. Et voilà que nous étions tous deux allongés, le corps mourant dessus le corps mort.
Merci. Merci. Alors, puisqu'on en est au rayon allégorie, pour ce qui est en tout cas de Mazeppa, Marc Poret, dans un article récent paru sur le site En attendant Nadeau, vous rappelez aussi en quoi Mazeppa est devenu au fond une icône gay, alors enfin, une sorte d'anachronisme de langage, oui. Et on comprend bien dans ce qu'on vient de ce que Jean Pavant vient de nous lire.
Oui, une icône gay, c'est-à-dire l'image du jeune homme dans sa beauté crucifié. Et ça, on voit assez aisément comment l'imaginaire gay peut s'emparer de cette image pour la porter très haut.
Mais enfin, ça fait l'imaginaire de Victor Hugo qui n'était pas gay. Il avait un autre imaginaire également.
Oui.
Mais enfin, dans le cas de Byron, en effet, l'inspiration gay n'est pas absente.
Non, elle est loin d'être absente.
Elle est loin d'être absente.
Oui. Même si, effectivement, pendant longtemps, toute la critique victorienne et néo-victorienne a pudiquement jeté un voile sur l'homosexualité, hein, latente chez Byron. Elle est toujours là, elle est là depuis le début. Cette attirance pour les jeunes garçons, Elle est là dès le début et elle est là vers la fin. Je veux dire, à la veille de mourir, il écrit un dernier poème qui est en l'honneur de son page grec. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est...
Et dans l'intimité de son gondolier vénitien, oui. Le Titan.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Je voulais revenir, puisqu'on était à Mazeppa et donc encore au héros byronien et au corsaire, hein, qui compose donc ce recueil que vous traduisez, Jean Pavant. Vous avez rappelé comment Byron se fait surprendre par sa célébrité, qui est assez soudaine, hein, en 1811-12, subite. Hein, oui. Voilà, il dit qu'un matin il s'est réveillé et qu'il a appris qu'il était célèbre.
I woke and found myself famous.
Voilà. Autant donc que cette célébrité le surprend. Qu'est-ce que c'est pour Byron, au fond, que d'être un poète, lui qui se rêvait plutôt côté politique?
Il avait deux mots pour la poésie. On peut résumer ça comme ça. Le premier mot, c'est le mot classique, presque archaïsant, en tout cas bien installé, qui est le mot poésie, avec un S. S-Y. Pas poetry, qui existe aussi, mais poésie, hein, qui est déjà un petit peu précieux. Et donc, à ses heures perdues, Byron se pensait poète. C'est-à-dire qu'il plaçait la poésie très haut. Et à d'autres moments, il plaçait la poésie très bas. Et là, à ce moment-là, il l'appelait d'un autre nom, qui est le mot poésie. Poésie. Hein, comme si cette poésie était une catin, comme si cette poésie était une poésie de merde. Hein, c'est-à-dire que sous la plume de Byron, la poésie est à la fois tout ce qu'il y a de plus sublime et à la fois tout ce qu'il y a de plus sordide. Poésie, poésie. Et la dérision avec laquelle il ne cessait de revenir sur sa poésie, de la trouver mauvaise, hein, le paradoxe de la célébrité byronienne, c'est qu'il tient cette célébrité de poèmes, comme les poèmes orientaux, que, en son fort intérieur, il pensait médiocre.
Oui, mais cette autodérision, c'est quand même le comble de la complaisance narcissique. Se parler à soi-même. Mais quant à la poésie, il avait, comme le note Baudelaire, une tendance à la redondance, à la loquacité. C'est-à-dire, il écrivait interminablement. Oui. Je veux dire, il y a ses journaux, ses lettres, c'était d'une certaine manière un graphomane. Sa poésie était en effet quelque chose qui est au fil de la plume.
Oui, mais sa poésie, il en dit qu'il pique pendre. Hein. Il n'y a pas critique plus féroce de sa propre poésie que Byron lui-même.
Qu'est-ce qu'il lui reproche à sa poésie?
Exactement, d'être trop mécanique, d'être trop facile, d'être trop rhétorique, d'user et d'abuser des faits de rhétorique qui viennent tout droit du néoclassicisme. Mais dans le même temps, c'est ça la contradiction, c'est ça l'ambivalence. Dans le même temps, le même Byron est incapable de faire autre chose que ça. Hein, on se souvient du mot de Beckett, « bon qu'à ça ». Eh bien, Byron, c'est la même chose. « Bon qu'à ça, poésie, bon qu'à ça ». La poésie, c'est une fièvre, c'est une démangeaison, c'est un prurite, c'est une brûlure, hein, c'est un délire. Et là, on rejoint la tradition du furor poeticus, hein, dont Byron est une nouvelle incarnation. La poésie rend malade et Byron préfère à tout prendre être malade de la poésie que bien portant de la prose qui l'environne. Hein, chez lui, c'est l'opposition constante entre la poésie qui élève, qui enlève, plutôt que élever, je vais dire enlever, hein, comme Mazeppa, comme cette musique qu'on a entendue prodigieusement enlever. La poésie, ça enlève sur un fond, sur un arrière-plan d'ennui, de lourdeur, d'épaisseur, de moralisme. Et donc la poésie, c'est l'exception qui vous fait être et vibrer intensément. Le mot-clé peut-être chez Byron, c'est celui de sensation. Byron n'a cessé de composer des odes à la sensation. Sauf que ça n'était pas des odes en bonne et due forme, comme les aurait composées Keats, son contemporain, mais c'était des instantanés de sensations. Byron a toujours voulu être dans le plus vif de la sensation, et la poésie, c'est ce qui permet de s'enlever.
Ce qui est curieux, c'est qu'il y a un poète redondant et loquace en France, Victor Hugo, hélas. Mais chez Victor Hugo, la redondance, la loquacité, c'était une explosion de santé. Ce n'est pas du tout morbide. C'est une conquête, de la santé morale, mentale. Mais également à base de bavardage, de loquacité, avec des éclairs de génie extraordinaires dans Hugo aussi.
Mmh. Alors cette poésie qui rend malade, mais cette poésie aussi enlevée, hein, ou qui enlève, est-ce que c'est ça au fond qui est venu dégourdir un peu la France? Parce que vous le rappelez, Jean Pavant, dans votre préface, hein, vous revenez évidemment sur l'importance de Byron en France, mais pas seulement, hein, aussi sur l'importance qu'il a eue notamment l'impact qu'il a pu avoir sur Pushkin, donc sur Tchaïkovski.
Mais en France, ça a été considérable.
Mais en France, particulièrement, le fait qu'il ait été traduit quasiment tout de suite, alors que vous rappelez bien, par exemple, qu'il a fallu attendre longtemps, plus longtemps pour Shelley, encore plus longtemps pour Keats,
oui,
qui a été traduit très tardivement en France. Qu'est-ce que la France, ou en tout cas la scène française, a trouvé chez Byron, qui au fond, d'un point de vue formel, ne transgresse pas tant que ça?
J'aurais adoré avoir 20 ans sous Charles X. Il s'est passé quelque chose avant 1830, en 1827-28, il s'est passé à Paris, dans la génération de Delacroix, de Victor Hugo, d'Hector Berlioz, ont eu la découverte de Shakespeare, qui a été joué pour la première fois à l'Odéon en anglais. Et la découverte de Goethe, parce que paraissait la traduction admirable de Nerval, de Faust, la découverte des symphonies de Beethoven, qui ont été jouées pour la première fois en 28, et les traductions de Byron, qui étaient même un peu avant, parce que Byron était traduit même en 1822. Et tout cela a arraché les romantiques français à la pâle imitation de la poésie racinienne. Voilà, on était dans une imitation complètement exsangue de ce qui avait été admirable de siècles plus tôt. Et Byron a été un terreau pour le romantisme français. Et Byron était encore un jeune homme quand il a eu cet impact considérable en France et en Europe. Il a été traduit très vite, mais c'est dû aussi au succès de librairie, il faut bien le dire, du Corsaire, parce que si des éditeurs français étaient très intéressés d'avoir des traductions de Byron, c'est que Byron faisait des ventes considérables en Angleterre, alors que Shelley n'était cédité à Condotteur. Shelley tirait 200-300 exemplaires de ses poèmes, donc l'édition ne s'intéressait pas trop à Shelley.
Oui, Byron galvanise.
Voilà, c'était ça ma question en fait. Voilà. C'est au fond de qu'est-ce qu'on va y trouver plus chez Byron? Alors il y a évidemment le parfum de scandale, j'imagine.
Oui, il y a la révolte
qui doit titiller
dont
un peu les éditeurs.
On n'a pas encore parlé, parce que cette révolte, ce n'est pas seulement une révolte de pirates d'opérette. C'est une vraie révolte. C'est une rupture avec le conformisme, avec sa propre classe. Quand Byron quitte l'Angleterre, il quitte aussi l'aristocratie, dont il continue à vivre parce qu'il a besoin de rembourser ses dettes, qui sont immenses. Mais c'est quand même celui qui affranchit, c'est celui qui s'est affranchi des pesanteurs du temps, pour aller au-devant de son destin. Et c'est ça qui fait que on le reçoit comme une décharge électrique, ça foudroie. Enfin, il y a quelque chose de foudroyant chez Byron. Alors, il faut se remettre dans le temps du temps. Comme vient de le dire Jean Pavant. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, la révolte de Byron, même s'il est authentique, nous paraît un tantinet, stéréotypé. Mais il faut se remettre dans la situation. Et il faut retrouver ce que cette révolte, cette apparition d'un sujet révolté, qui est aussi un sujet pensant, qui s'interroge de manière existentielle, sur la vie, sur la mort, l'apparition sur la scène de quelqu'un de très contemporain. Pour la première fois, les Anglais, les lecteurs anglais avaient affaire à un héros qui se mettait en scène dans ses voyages tout au long de l'Europe, mais de façon contemporaine. Et pour la première fois, quelque chose d'absolument nouveau est apparu sur la scène. Et c'est cette nouveauté-là que les Français ont cherché à reprendre à leur propre compte.
Oui, sauf que, quelle que soit l'importance de Byron, il n'a pas le génie ni de Goethe, ni de Beethoven, ni de Shakespeare. Je veux dire, il en a profité. Il a été mis dans le package, si on peut dire, des révélations de Shakespeare, de Beethoven et de Goethe. Et donc, voilà.
Pour la petite histoire, c'est une anecdote. Byron avait l'habitude de dire que le siècle, c'est-à-dire le sien, le 19e siècle, le début, précisons, du 19e siècle, comptait trois grands B. Il y avait Bonaparte, il y avait Beethoven et il y avait Byron. Tout de même.
Oui,
on pourrait ajouter un quatrième, Brummel, hein,
le dandy.
Parce qu'il y a du dandysme chez Byron. Non, ce que je veux dire par là, et ça rejoint la discussion que nous avons, c'est-à-dire que Byron a senti quelque chose, à savoir que l'Europe, après la mort de Napoléon, ou en tout cas sa chute, se cherchait confusément un objet, un sujet, un héros. Et toute l'entreprise byronienne, c'est une entreprise de fabrication d'un héros. Au début du donjon, il y a une phrase, l'incipit, même du poème. Cette époque, la nôtre, est en manque de héros. Je vais lui en fournir un. Je vais pour cela aller récupérer le vieux donjon de la pièce espagnole. Il a senti que cette médiasphère, il parle des gazettes, il parle des journaux, il parle des journalistes, hein, il parle de cette celebrity culture dont les Anglais se sont fait une spécialité. Il sent confusément que l'époque est en manque de héros et il se dit « je vais lui en fournir un ». Et toute son entreprise, comme je le disais, c'est une manière d'héroïser le moi byronien que l'on exhibe. Mais c'est un besoin anthropologiquement universel. On a besoin de role models, on a besoin de se trouver des héros.
Et pourtant, c'est un héros un petit peu particulier, ce donjon, parce que c'est un héros assez passif par rapport au mythe que l'on connaît, c'est-à-dire que c'est un héros qui est davantage désiré que désirant.
Absolument, c'est un héros qui n'est pas conquérant, mais qui est conquis, qui n'est pas actif, mais qui est passif. Encore une fois, passif comme Mazeppa. Il est constamment le jouet des femmes. Il est manipulé par l'histoire, bien sûr, mais aussi par les femmes qui le mènent par le bout du nez. Mais quelque part, en renouant avec le mythe, hein, Don Juan est l'un des rares mythes modernes avec le Faust de Goethe, en renouant avec le mythe, Byron pérennise quelque chose qui est fondamental chez l'homme.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il a réussi ce que Chateaubriand a manqué. Chateaubriand voulait aussi être une figure de héros à l'égal de Bonaparte. Et Chateaubriand était jaloux de Byron. Pourtant, Chateaubriand avait une dizaine d'années de plus. Il était venu avant Chateaubriand. Et quant à la figure du héros, il a fourni en tout cas à Hector Berlioz, Child Harold en Italie. Berlioz, qui voulait évidemment être un héros, s'est emparé de Harold pour faire Harold en Italie. Oui. Et ça, en effet, vous avez raison, c'est singulier. C'est ce qu'il a apporté de très particulier par rapport à Goethe, par rapport à Shakespeare ou par rapport à Beethoven la musique, oui. On avait besoin de cette figure de héros. Le romantisme en avait besoin et Chateaubriand n'avait pas réussi à le faire.
Et on va rajouter un héros si on peut faire ça, si on en a la permission. Tout à l'heure, on parlait de Shakespeare. Effectivement, génie universel. Dans son Don Juan, Byron injecte du Shakespeare par l'intermédiaire d'une figure, celle du narrateur, qui est effectivement un bavard impénitent, qui parle, s'en devient saoulant, mais qui parle en vers, et en vers très drôle, ma foi. Mais ce narrateur, il est hamlétien. Voilà. C'est la figure de Hamlet qui manquait. Et Byron l'a réintroduit en majesté, mais en majesté un petit peu avec la présence du fou à ses côtés. Hein, puisqu'on s'en souvient, Hamlet, son plus bel interlocuteur, c'est quand même soit le fossoyeur, soit le fou. Ou en tout cas le crâne du fou que l'on déterre. The jester, hein, n'est-ce pas? Eh bien, le héros byronien peut être une sorte de néo-Hamlet à côté du Don Juan de pacotille, à côté de la marionnette qui est effectivement Don Juan. Donc, c'est ça qui fait la complexité, l'épaisseur, la substance de ce poème, qui est un grand poème comique. Il y a peu de poèmes comiques, dont Don Juan est assurément un, 1819-1824. Ce qui fait la force de ce poème, c'est le côté Hamlet et marionnette réunis.
Retrouve un petit peu dans les poèmes orientaux que vous avez traduits, Jean Pavant, on sent venir quand même aussi cette autodérision, cette ironie qui va vraiment se développer et s'épanouir, en particulier dans le Don Juan. J'aimerais bien vous poser une question sur l'organisation de ce recueil que vous ouvrez. Donc il y a trois poèmes et cette ode à Venise, cette oraison à Venise qui vient ouvrir le recueil. Un recueil qui est construit sans respect de la chronologie, hein, parce que vous démarrez par un texte plus tardif, par un poème plus tardif qui est cette oraison à Venise.
Oui, mais cette ode à Venise, on Venise,
que vous traduisez par oraison.
Oraison vénitienne, parce que c'est un peu une oraison funèbre, hein, sur. Mais en réalité, c'était paru en première partie de Mazépin.
Qui est un poème d'une extrême mélancolie. Alors j'en reviens peut-être à Marc Porré, ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de révolte. On n'a pas du tout abordé la question politique.
C'est
en
un
fait,
poème politique, oui.
Chez Byron, qui est évidemment importante. Et cette mélancolie qu'on accorde évidemment à Byron et au poète et au héros byronien, c'est une mélancolie que vous comprenez comme une mélancolie comme d'ordre politique.
Mélancolie politique, c'est
Marc Porré.
C'est l'impuissance, l'impuissance caractérisée, l'aliénation, la servitude dont Byron pense qu'elle est volontaire en plus, par-dessus le marché, que les Vénitiens acquiescent, ce veut dire donnent leur assentiment à cette servitude. Et donc, on compare, hein, l'indépendance, la fierté du passé, et puis on l'oppose au caractère très ordinaire, très quelconque du présent. Et la mélancolie, c'est ça, c'est la méditation sur les ruines. Bon, je veux dire, ça n'a rien de très original, mais quand même, hein, les ruines de Venise, les ruines d'Athènes, tout ça, ça entretient une sorte de ferment mélancolique, de voir que, effectivement, l'homme n'est plus capable de se prendre en main, d'assumer son destin, d'être libre.
Commencer par ce court poème-là, Jean Pavant, c'était commencé par quoi? Commencé par cette oraison
c'était
à Venise.
C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en parler de Byron sans parler de Venise. Moi-même, j'ai une passion pour Venise, je ne suis pas le seul. Et cette décadence Venise, elle s'est figée, c'est ça qui est extraordinaire, parce que on peut voir Venise comme une chose extrêmement triste, mais en même temps, c'est quelque chose qui a dépassé la mort. Et voilà, Venise est quelque chose qui a transcendé la mort. Pour ceux qui aiment Venise, pour ceux qui au contraire trouvent une image du bonheur dans Venise, alors que ceux qui ont aimé passionnément la vie et qui aiment passionnément la vie sont très troublés par Venise parce que leur système de vie ne fonctionne plus, n'existe plus.
Alors il est peut-être temps qu'on en vienne à la langue à proprement parler de Byron et donc à la question de la traduction. Jean Pavant, j'imagine que ça n'est pas mince affaire. On écoute peut-être pour commencer une lecture du Giaour, qui se trouve donc également dans le recueil hein, que vous avez traduit, par Coralie Seyrig. C'était le 30 mai dernier. Donc c'est un extrait assez court de ce fragment d'un conte turc, hein, sur lequel on va revenir. Un extrait assez court en français, en anglais, pardon. En anglais d'abord, suivi de sa traduction en français.
The mind that broods o'er guilty woes is like the scorpion girt by fire. In circle narrowing as it glows, the flames around the captive close, till inly searched by thousand throes, and maddening in her ire, one sad and sole relief she knows, the stink she nourished for her foes, whose venom never yet was vain, gives but one pang, and cures all pain, and darts into her desperate brain. So do the dark in soul expire, or live like scorpion girt by fire. So writhes the mind remorse hath riven, unfit for earth, undoomed for heaven, darkness above, despair beneath, around it flame, within it death. L'esprit, ruminant les chagrins coupables, est pareil au scorpion cerclé de feu. Les flammes, en s'embrasant, se resserrent autour de leur captif et le harcèlent d'un millier de tourments jusqu'au moment où, fou de colère, il ne voit qu'un seul et triste moyen, le dard destiné à ses ennemis, dont jamais encore le venin n'a failli, qui ne provoque qu'une brève piqûre, mais guérit toute douleur. Ainsi le noir dans l'âme se meurt comme le scorpion dans le feu. Tel est le cœur ravagé de remords, exclu de la terre, écarté du ciel, ténèbres en haut, désespoir en bas, flamme tout autour et mort au-dedans.
C'était donc la voix de Coralie Sering, disant cet extrait du Giaour, fragment d'un conte turc qui figure dans le recueil que vous traduisez pour Gallimard, Jean Pavant. C'est vous qui avez choisi précisément cet extrait-là, c'est-à-dire ce passage, cette scène du scorpion, hein, on continue au rayon insecte. Hein, puisque...
Oui, parce que c'est...
Jean Pavant.
Oui, le scorpion est donc le remords. C'est le remords de Giaour, que le Giaour a tué le pacha.
Alors le Giaour, il faut peut-être rappeler que c'est un terme utilisé, un terme
péjoratif,
très pour désigner les hommes infidèles.
L'infidèle, le chrétien. Et le chrétien s'est enfui avec la favorite du pacha. Le pacha, pour se venger, Leila, pour se venger, noie la Leila. Et pour venger Leila, le Giaour entraîne le pacha dans un traquenard et le tue. Et il y a, d'ailleurs le combat est absolument extraordinaire, la description du combat du Giaour et du pacha est absolument extraordinaire. Et alors l'ironie veut que le pacha qui a été tué va retrouver les houris du paradis d'Allah, tandis que le Giaour, lui, est torturé de remords,
d'avoir... Il va se confesser même, d'ailleurs.
Il va se confesser, enfin il se retire dans un monastère. Mais si nous avons deux minutes, peut-être je peux lire un passage du combat du Giaour et du...
Avec plaisir.
Voilà, parce que c'est une idée qu'il n'y a, où il explique à propos d'homosexualité, qu'il n'y a rien de plus intense que l'étreinte de deux combattants. Un jeune cœur peut tendrement chercher à partager des caresses ardentes. Mais l'amour, pour tout ce que la beauté désire lui accorder, ne saurait palpiter avec autant de ferveur que la haine de rivaux qui s'étreignent et ne peuvent se séparer avant l'ultime issue. Deux amis se rencontrent et se quittent. L'amour rit de la foi. Deux ennemis s'unissent dans la mort. Et voilà, il y a donc une intensité de haine entre le pacha et le Giaour qui surpasse tout. D'où l'obsession que, même si après quoi le Giaour s'imagine Leila apparaissant dans ses rêves, mais il était évidemment absolument obsédé par le pacha.
Marc Poré, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ce que j'allais dire, c'est que c'est la langue qui permet de rendre ça admirablement traduite par Jean Pavant, avec ses antithèses, je veux dire avec son binarisme. On a entendu ça, on a entendu les oppositions, les symétries, les parallélismes. C'est une langue qui est puissamment travaillée, presque chevillée, rendue dans un français qui tombe impeccablement. Alors ça paraît étrange hein, de dire qu'on lit un Byron français, mais c'est un beau compliment tout de même hein, que de lire de l'aussi beau français, avec une clarté qui était effectivement le propre de Byron par rapport à un Shelley qui était toujours un petit peu plus fumeux, on va dire, un peu plus abstrait. Byron avait le sens hein, des réalia, le sens du concret. Alors ça lui arrivait, comme tout bon poète néoclassique, de partir dans les allégories, évidemment, dans les emblèmes, mais au meilleur de lui-même, il est dans cette saisie à vif hein, de ce qui fait le tranchant des oppositions.
Oui, et en effet, dans ces moments d'inspiration, parce que dans chacun de ses poèmes, il y a de la redondance et de la loquacité, mais des moments de puissante inspiration, et là, il a la concision. Là, il a la précision, la concision, la rhétorique.
Et c'est ça.
En effet.
Presque épigrammatique.
Et donc, ça tombe assez facilement en français. Parce qu'il tombe, en effet, dans un esprit voltairien ou français de clarté qui fait que ça tombe bien en français quand on le traduit.
Alors, où se loge la difficulté, justement, de la traduction? C'est peut-être davantage du côté de la redondance et de la loquacité? Ou
oui,
vous diriez
oui,
qu'au
oui,
fond,
oui.
Byron est assez...
Je l'ai un peu, comment dire, nettoyé de répétitions de mots, enfin des choses comme cela. Mais bon, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait naturelles en anglais que le français admet mal, en particulier... Et puis, de toute façon, c'est normalement une entreprise désespérée, parce que l'anglais, la poésie anglaise est fondée sur les sonorités, la scansion, que nous n'avons pas en français, mais peu importe, vous savez, c'est une affaire de linguistique. Il y avait la théorie structuraliste de la langue qui rend complètement absurde l'idée de traduction. Et puis il y a la linguistique générative qui était de Chomsky, qui est au fond biblique, qui est l'histoire de il y a le verbe qui a été insufflé à Adam, qui était un verbe universel, qui est le fait même de l'humanité qui a une langue commune. Puis après quoi, il y a eu l'accident de Babel qui nous a donné du travail. Mais si on veut faire comment décrire d'une manière un peu mythologique le travail du traducteur, on est persuadé que derrière une langue qui est l'anglais, d'un poésie, il y a le verbe universel qui est derrière. Donc nous partons du texte anglais, nous remontons au verbe qui est derrière, universel, et du verbe nous retombons en français. Autrement dit, on cherche l'idée derrière le texte, voilà.
Alors peut-être un dernier mot sur le Jaour dont on vient d'entendre un extrait. C'est aussi dans ce poème narratif qu'apparaît la figure du vampire, enfin apparaît furtivement en tout cas la figure du vampire, puisque c'est le pacha, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais c'est le pacha qui d'une certaine façon, depuis son paradis, maudit le jeune vénitien et donc le condamne à sucer le sang. Des siens, d'une certaine façon.
Oui.
De l'apparition de ce vampire qui a, donc avant le fameux épisode de 1816, hein, qui est donc cet épisode dans cette villa au bord du lac Léman, qui a réuni Byron, Shelley, celle qui allait devenir Mary Shelley, et donc les prémices de l'écriture du Frankenstein et du fameux récit Le Vampire sur un brouillon de Byron, si je ne dis pas de bêtises. Cette figure-là du vampire, telle qu'elle apparaît déjà là donc en 1813, qu'est-ce qu'elle lui permet à Byron?
Oui, c'est une veine populaire, et là on retrouverait peut-être, même si c'est un peu tiré par les cheveux, la volonté chez Byron de quitter les hautes sphères de la poésie et de prendre langue avec les contes, les récits, les légendes populaires. Ça n'est pas pour rien, c'est une parenthèse que j'ouvre, qu'à partir du chant 6 du Don Juan, Byron retire son livre des mains de son éditeur originel, à savoir Murray, l'Écossais, pour le confier à un autre éditeur, Hunt, qui lui est un radical, à condition que, effectivement, il produise une édition bon marché, que le petit peuple va pouvoir se procurer, comme si Byron avait le souci, effectivement, hein, de parler au, encore une fois, à l'humain. Donc, le vampire, c'est ça, c'est la légende, c'est aussi l'errance éternelle, l'insatisfaction permanente. Enfin, je veux dire, on est assoiffé, on a toujours besoin de sang, on a toujours besoin d'un sang qui vous fuit, d'une sorte d'énergie qui défaille et qui vous condamne nuit après nuit à vous ressourcer à quelque chose qui est de toute façon inatteignable. C'est l'absolu, le vampire. C'est une quête effrénée de quelque chose qui va, alors quand c'est repris par Bram Stoker au fin 19e siècle, dans un contexte tout à fait différent, c'est quelque chose qui vient de l'Est, qui vient de la Roumanie, et qui va infester l'ancienne puissance coloniale, ou la toujours présente puissance coloniale. On pourrait lire dans le sang contaminé, on pourrait lire toutes les métaphores de la modernité, y compris celle-là, c'est-à-dire la revanche du colonisé, de l'oriental, entre guillemets, sur l'occidental.
Alors si Byron a voulu, ou en tout cas souhaité, être lu de façon massive, en tout cas la plus massive possible, en France, on l'a vu, on l'a évoqué rapidement, il a été très vite idolâtré même, d'une certaine façon, y compris par les poètes. Et puis cet engouement s'est un peu effiloché, enfin rapidement effiloché, même au XXe siècle. Aujourd'hui, quand on regarde la bibliographie française, on est surpris par sa minceur, ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre, où il n'a pas du tout, évidemment, pas du tout le même statut qu'ici. Qu'est-ce qui nous a, nous, éloignés de Byron, nous, ici, en France, et pourquoi faudrait-il le lire aujourd'hui, malgré tout.
Il a été vampirisé par ses adaptateurs. Je veux dire, il est peut-être, je ne sais pas où je dis cela, il était peut-être masqué par le fait d'avoir été complètement assimilé par le romantisme français. On n'a plus besoin de Byron à partir du moment où on avait Vigny et Victor Hugo.
Oui, je suis en train de chercher parce que c'est une question assez difficile. La raison de pourquoi s'est-on détourné de Byron, parce que peut-être qu'on se méprend sur l'authenticité du vrai Byron. On a longtemps pris le faux Byron pour le vrai. Et donc, il faut inlassablement, c'est pour ça qu'une traduction comme celle qui vient de paraître chez Gallimard, signée par Jean Pavant, est indispensable, parce que elle nous remet sur la route peut-être du vrai Byron, qui est un Byron politique, qui n'est pas le Byron poseur dont on s'est lassé, c'est vrai.
Oui, c'est un écrivain bilingue, romancier, c'est assez célèbre, Julien Green, qui était un grand lecteur de poésie anglaise, était plein d'ironie sur Byron, le poseur, etc. Mais il reconnaissait que le passage que nous avons lu, que j'ai lu, de Mazeppa sur les chevaux, était un moment complètement extraordinaire.
C'est la fin de cette émission, Jean Pavant, Marc Pourret, comme toujours et cette année encore, si vous le voulez bien. Je vous laisse la terminer entre vous et sans moi, et je vous laisse sur un titre des Smiths, apparemment inattendu, mais Marc Pourret nous en dira peut-être davantage. Half a Person, c'est un titre de 1987. On écoute Morrissey. Bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 long years on your trail.
Tout à l'heure, on s'interrogeait sur la postérité de Byron, surtout la postérité française. Disons que du côté britannique, outre-Manche, Byron est toujours resté un petit peu présent. Tout dernièrement, à l'occasion, par exemple, de la vogue des punks, des rock stars et des post-punks, on pourrait dire que, et l'illustration sonore en est la preuve, il y a un retour peut-être de cette veine ténébreuse, mélancolique, intranquille. Robert Smith, du groupe The Cure, était à l'époque de sa jeunesse un grand lecteur de Byron, et donc ce serait une manière de sauver Byron de son destin de rockstar que de reconnaître qu'il a su mettre en branle, faire vibrer quelque chose qui est éternel finalement et qui a à voir avec la jeunesse.
Je n'en ai pas parlé parce que c'est un sujet qui est un peu long pour moi, mais vous savez, j'ai fait une adaptation des Aspen Papers de Henry James, je l'ai fait au théâtre et puis il y a une adaptation de cinéma. Et les Aspen Papers, c'est l'histoire de Claire Clairmont. C'est-à-dire que James avait appris que Claire Clairmont était toujours en vie à Florence et qu'elle avait des papiers, des lettres de Byron, etc. Et donc il a écrit cette nouvelle absolument extraordinaire d'un critique qui va essayer d'avoir les papiers d'Aspern, poète américain plus ou moins inspiré de Byron, mais américain, et qui, voilà. Et je dis cela parce qu'il y a eu un film fait par un jeune cinéaste français, on a fait le scénario ensemble, Julien Landais pour le nommer, et qui est fanatique de Byron, et donc il a injecté dans son film des évocations de Byron, mais quand même, on a choisi plutôt des poèmes de Shelley. Donc on a attribué à la figure imaginaire de Geoffrey Aspern, la vie de Byron et les poèmes de Shelley. Et avec donc la vie de Byron avec le cynisme de Byron et cette phrase qu'il avait écrite, je ne sais plus laquelle de ses maîtresses, pardon, non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps.
Compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit, j'espère avec une voix retrouvée. Aujourd'hui, à la technique, Alain Joubert, à la préparation, Thierry Beauchamp et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de Marc Poré et Jean Pavant sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin, comme c'est bien, et de sa méthode scientifique.